Ben, on fait hop, 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 et puis voilà. Hein.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Je vais vous faire une chronique musicale.
Alors, j'avais décidé, par légèreté d'esprit, de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes ?
Je parlerai de la gaudriole.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur ? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors, à votre télé.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les filles, comment allez-vous ?
Salut les garçons, bonjour tout le monde.
Et oui, c'est le titre de cette émission, Actuel et lui. Alors au sommaire aujourd'hui, on commence tout de suite avec Anne-Marie. Que vas-tu nous proposer ?
Eh bien, je vais vous parler d'un livre.
Ah, ben Anne-Marie, on ne t'entend pas.
En plus, on coupe la parole.
Commence bien.
Voilà, et oui, c'est ça. C'est les problèmes de l'enregistrement, c'est qu'on se perturbe. C'est bon, ça y est, cette fois, on t'entend. De quoi vas-tu donc nous parler ?
Donc, je vais toujours vous parler d'un livre. Voilà, je vous donnerai le titre après. Et toi, Guillaume, tu vas nous parler de quoi ?
Alors moi, je vais vous faire une petite revue de presse d'actualités diverses et variées.
Quoi, le sexe t'arrête là ?
Vous verrez.
Peut-être pas. Bon. Et Caroline ?
Alors moi, je reviens de Paris. Je ne suis pas allée voir Michel Drucker ce coup-ci, mais je vais vous parler de mon petit voyage à la capitale.
Où tu as vu de belles vaches. Hein.
C'est ça, vos vaches, cochons et autres animaux de la ferme.
D'accord, d'accord. Bien, alors, on va tout de suite commencer avec Anne-Marie, comme d'habitude. Et donc,
qui est toujours bonne élève à ses petites post-it couleurs.
Non, mais forcément, il faut le dire, Anne-Marie, c'est quand même globalement celle qui prépare le mieux ses chroniques,
hein,
qui lit des livres pour pouvoir nous en parler, qui met des petits post-it, qui prépare un texte avec des questions.
J'ai l'habitude de lire des livres, pas spécialement pour 48 FM.
qui pose des questions aussi, qui nous écrit des questions pour que nos questions aient l'air intelligentes.
Mais oui, parce que vous ne m'écoutez pas.
C'est ça.
Mais si.
Bien, donc tu nous parles de littérature.
Exactement. Alors, mercredi 4 mars est sorti au cinéma le film Tokyo Fiancé, adapté du roman Ni d'Ève ni d'Adam d'Amélie Nothomb. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, ce livre.
Non.
Non.
Non plus.
Bien. Je ne suis pas fana de La Demoiselle.
Moi non plus. Comme ça tombe bien. Mais alors, dans cette chronique, point de critique de film et point d'auteur belge. Mais c'est pour moi l'occasion d'évoquer Le Pays du Soleil Levant. Alors, moi qui ne suis pas du tout attirée ni par la culture japonaise ni par l'histoire du Japon, ayant pour seul repère basique et culinaire les excellents sushi, maki et sashimi, donc vous le constatez, hein, ce sont quand même des connaissances très sommaires, je suis tombée sur un livre sublime intitulé « Certaines n'avaient jamais vu la mer » de Julie Otsuka, un livre qui m'a permis de me plonger dans l'histoire de ces japonaises, hein, qui ont tout abandonné au début du XXe siècle pour épouser aux États-Unis, sur la foi d'un portrait, un parfait inconnu. Un livre magnifique évoquant des destins brisés dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Voilà.
Ah, ça donne très envie.
Donc ça veut dire, si tu me dis ça, c'est que tu ne l'as pas lu ?
Non du tout, je n'en avais même jamais entendu parler. Alors Anne-Marie, un livre plutôt bien accueilli par la critique ?
Alors, si le titre « Certaines n'avaient jamais vu la mer » vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, puisque ce roman a reçu le prix Femina étranger en 2012. Alors, j'ai trouvé quelques critiques, évidemment, sur Internet, et la plus belle, enfin, en tout cas, selon moi, bien sûr, c'est celle qui a été écrite par l'Express, et je vous cite d'ailleurs ce que l'Express a écrit. « C'est un petit livre poignant, singulier. Il raconte à la première personne du pluriel un « nous » qui vaut de nombreuses voix, et je vous en reparlerai à la fin de ma chronique, l'expérience de jeunes japonaises envoyées à San Francisco au début du XXe siècle dans l'espoir d'une vie meilleure. Très jeunes, certaines sont mineures, elles s'apprêtent à rejoindre un futur époux, japonais lui aussi, émigré de longue date, qu'elles n'ont pas choisi mais seulement vu en photo. » Elles viennent avec leur kimono, leur savoir-faire de cuisinière, de couturière, leur bon sens de paysanne, leur quant à soi pour les plus privilégiés. Elles viennent avec leurs croyances, alors généralement bouddhistes, leur innocence, leur endurance, ce qui leur sera bien utile. Car au terme d'une traversée éprouvante de l'océan Pacifique, reléguées dans les cales du bateau et traitées comme du bétail, le contact avec celui pour qui elles ont tout abandonné rimera avec désillusion et douleur. Riche idée de la part de Julie Otsuka d'avoir opté pour ce mode narratif pluriel et incantatoire, il dit avec force mais sans pathos la souffrance de ces jeunes femmes livrées brutalement à un quotidien qui les broie, d'une nuit de noces relevant souvent du viol à l'obligation de trimer au champ, prolétaires ou non, toutes seront soumises aux mêmes brimades, aux mêmes mépris, aux mêmes désenchantements. Nous comprenions que jamais nous n'aurions dû partir de chez nous, disent-elles dans le livre. Cet exil tournera d'autant plus au cauchemar que le spectre de la guerre leur promet le pire. Non seulement la romancière met en lumière un épisode historique méconnu, mais elle le fait avec une virtuosité époustouflante. Voilà, j'avais quand même envie de vous lire cette critique qui, je trouve, est très belle et résume très bien, en tout cas, ce magnifique livre.
Et alors donc, un petit mot sur cet auteur, justement, Anne-Marie ?
Alors voici les éléments que j'ai pu trouver hein, sur le réseau social qui permet de cataloguer sa bibliothèque en ligne, à savoir Babelio. Donc Julie Otsuka est née en Californie d'une mère américaine d'origine japonaise et d'un père japonais. Elle est la petite fille d'émigrés japonais. Elle fait des études supérieures à l'université de Yale où elle est diplômée en art, peinture et sculpture en 1984. Alors Julie Otsuka a commencé par la peinture, donc elle peint beaucoup de façon libre et inconsciente, dit-elle, jusqu'au moment où elle s'est inscrite à l'université pour poursuivre des études dans cette discipline. Et là, la pression et l'obligation de produire beaucoup et selon certains critères l'ont coupée de son inspiration et elle a donc abandonné ses études et la peinture. Alors très déprimée par cet échec, habitée par le sentiment d'être dans l'impasse et de ne pas savoir quoi faire d'elle-même, elle se met à lire avec avidité pendant 2 ans. Influencée par des auteurs comme Duras et Annie Ernaux, elle va enfin se lancer dans l'écriture. Avec l'apparition de son premier roman, « Quand l'empereur était un dieu » en 2002, Julie Otsuka fait une entrée remarquée dans le monde de la littérature. Ce livre est inspiré par l'histoire de son grand-père suspecté de trahison après l'attaque de Pearl Harbor en 1941 et interné dans un camp de l'Utah pendant 3 ans. En 2012, son roman « Certaines n'avaient jamais vu la mer » est donc couronné par le prix Femina étranger.
Ouais, joli parcours. Hein.
Oui, puis assez atypique du coup aussi.
Ouais. Donc, ce livre est ton coup de cœur du mois, du trimestre, de la semaine, dis-nous, Anne-Marie.
Bah, depuis le début de l'année, en tout cas, je pense que c'est le meilleur roman, effectivement, que j'ai lu.
Alors, Guillaume n'a pas déserté le studio, hein, il faut dire.
Il est bien là.
Il est bien là. On ne l'entend pas, mais il est bien là. Hein. Auditeurs, que toi, tu nous entends. Ne soyez pas inquiets.
Je suis là, effectivement.
Alors oui, ce livre est mon coup de cœur. Et d'ailleurs, comment rester insensible hein, face à la douleur de toutes ces jeunes japonaises qui ont cru au bonheur ? Leur désillusion est évoquée dans les premières pages du roman, sonnant le glas de leurs rêves. Je voulais vous lire juste un cruel passage qui ne sera pas long, ne vous inquiétez pas. Alors, sur le bateau, nous ne pouvions imaginer qu'en voyant notre mari pour la première fois, nous n'aurions aucune idée de qui il était. Que ces hommes massés aux casquettes en tricot, aux manteaux noirs miteux qui nous attendaient sur le quai, ne ressemblaient en rien aux beaux jeunes gens des photographies. Que les portraits envoyés dans les enveloppes dataient de 20 ans. Que les lettres qu'ils nous avaient adressées avaient été rédigées par d'autres, des professionnels à la belle écriture, dont le métier consistait à raconter des mensonges pour ravir le cœur. Qu'en entendant l'appel de nos noms depuis le quai, l'une d'entre nous se couvrirait les yeux en se détournant « Je veux rentrer chez moi ». Mais que les autres baisseraient la tête, lisseraient leur kimono et franchiraient la passerelle pour débarquer dans le jour encore tiède. « Nous voilà en Amérique, nous dirions-nous, il n'y a pas à s'inquiéter et nous aurions tort ». C'est cruel quand même. Hein.
Ah oui.
Parce que du coup, voilà, elle quitte tout pour de parfaits inconnus. Et en plus, voilà, comme il dit dans le texte, les photos ne datent pas d'aujourd'hui, quoi. Alors l'histoire de ces Japonaises hein, qui pensaient venir aux États-Unis pour devenir femme au foyer, au bras d'un jeune homme élégant et respectueux, vont finalement devenir une main-d'œuvre dans les champs, pas chère et disciplinée, bien sûr, pour le pays. Ces femmes vont connaître les humiliations, les brimades, les coups, la prostitution pour certaines. Elles vont donner naissance à des enfants qui auront honte plus tard de leur mère et de leur culture. Après avoir vécu un exil plus ou moins forcé du Japon aux États-Unis, je dis plus ou moins forcé parce qu'effectivement... ce sont des familles souvent très pauvres et leurs parents leur disaient de partir aux États-Unis pour leur ramener aussi un petit peu d'argent. puis surtout parce qu'elle coûtait trop cher à la famille. Elles vont vivre un deuxième exode, cette fois-ci sur le sol américain, lorsque le Japon déclare la guerre aux États-Unis. Je vous rappelle donc que le Japon a lancé une attaque surprise contre la flotte américaine le 7 décembre 1941 à Pearl Harbor, à Hawaï, et a endommagé une partie de la flotte américaine. En réponse, les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon, puis par le jeu des traités, l'Allemagne et les États-Unis se sont déclarés la guerre. 1942, c'est l'année de l'internement dans les camps pour les Américains d'origine japonaise, puisque les États-Unis, présidés à l'époque donc par Franklin Roosevelt, estiment que tous les immigrés japonais sont des taupes, des imposteurs, des traîtres. Et d'ailleurs, je vais vous lire un petit passage. Tout ça a été dû, bien sûr, aux histoires que rapportaient les journaux. Ils disaient que nos hommes étaient passés à l'action par milliers avec une précision d'horloger à l'instant où l'attaque de l'île avait débuté. Ils disaient que nous avions bloqué les routes avec nos camions délabrés et nos vieux tacos, que nous envoyions des signaux aux avions ennemis depuis nos champs, que la semaine précédente de l'attaque, plusieurs de nos enfants avaient crânement annoncé à leurs camarades que quelque chose d'énorme allait se produire, que ces mêmes enfants, interrogés par leurs professeurs, avaient raconté que leurs parents avaient fait la fête pendant des jours après l'annonce de l'attaque. Ils criaient « Banzai ». Qu'en cas d'assaut contre le continent, tous ceux dont le nom apparaissait sur la liste étaient susceptibles de se ranger aux côtés de l'ennemi, que nos ouvriers agricoles étaient les fantassins d'une vaste armée souterraine, que nous, les domestiques, nous étions des agents de renseignements infiltrés, que nous, les jardiniers, nous cachions des radiotransmetteurs à ondes courtes dans nos tuyaux d'arrosage et qu'à leur hache, heure du Pacifique, nous passerions à l'action. Des barrages sauteraient, des puits de pétrole seraient incendiés, des ponts s'écrouleraient, des routes seraient détruites, des tunnels bloqués, des réservoirs empoisonnés. Et qu'est-ce qui empêchait l'un des nôtres de se rendre sur un marché bondé avec une ceinture de dynamite ? Rien. Donc vous voyez à quel point c'était... complètement stupide, finalement. Résultat, près de 110 000 civils sont alors incarcérés dans 10 camps d'internement disséminés dans l'ouest du territoire américain. Ils ne seront relâchés qu'à partir de 1944. Certains devront attendre 1945, avec pour seul bien donné par les États-Unis un ticket de bus et $25. Alors que
une fortune,
n'est-ce pas ? Alors que, évidemment, quand ils sont partis dans ces camps d'internement, ont dû brader leurs biens et laisser leur maison avec les animaux. La romancière Julie Otsuka boucle son livre en reparlant ainsi de ce sujet trop longtemps demeuré tabou, à savoir la présence des camps d'internement aux États-Unis. Alors, au-delà de cette intrigue touchante et révoltante, j'ai aimé l'écriture délicate de la romancière. Le fait qu'elle emploie toujours les pronoms personnels « on » et « nous » pour évoquer l'ensemble de ces femmes, comme si elles n'étaient qu'une masse compacte, interpelle le lecteur mais souligne l'universalité des destins brisés. Mais dans le dernier chapitre intitulé « Dernier jour », dans l'avant-dernier chapitre d'ailleurs, « Dernier jour », des femmes et des hommes d'origine japonaise partant donc pour les camps d'internement portent enfin un nom, comme si tous avaient dûment payé le droit à être considérés comme des êtres à part entière. Et finalement, dans le dernier chapitre, ce sont les Américains qui deviennent une masse compacte, car ils sont dépersonnalisés avec l'emploi de ce « nous » qui donc était avant utilisé pour les Japonais. Je vais juste vous en lire un tout petit passage. « Pendant plusieurs semaines, certains d'entre nous continuent d'espérer que les Japonais reviendront, car nul n'avait jamais dit que ça durerait toujours. Nous les cherchons à l'arrêt de bus, chez le fleuriste. Nous regardons régulièrement par la fenêtre, au cas où nos jardiniers seraient revenus sans s'annoncer dans nos jardins. » Voilà. Donc un roman, vous l'aurez compris, que je vous conseille de lire et de relire.
Je trouve que c'est un excellent choix, puisque nous sommes à la veille, je vais mettre ma petite touche féministe bimensuelle, à la veille de la journée de la femme, et je trouve que... Eh ben voilà, il faut le lire pour le 8 mars.
Oui, non, mais tout à fait. Je suis d'accord.
Et alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter en lien avec, avec ce livre ? Ou peut-être pas en lien ?
Si, puisque mon fil conducteur, c'est quand même les destins brisés, donc je vous propose d'écouter Roméo et Juliette, chanté par Abdel Malik et Juliette Gréco.
Il boit une 8-6. Mini Austin, il sort du périph'. Gangsta rap culture, cette musique l'a rendu autiste. Il a rencard avec une fille moitié brésilienne, moitié cabine. gogo danseuse, elle dit être artiste. Il connaît toutes les répliques du film Scarface. Le frère, il dit, mes mains, elles sont pas faites pour cette merde. La cité l'a vu grandir, lui a tourné la tête. Parce que, selon le contexte, on confond force et faiblesse. Elle chante, elle rêve de la carrière de Wallen. Elle a perdu tout repère depuis le décès de son père. C'est l'allégorie d'une fille facile qui est assise à la place du mort, qui pense que je t'aime n'est qu'un mouvement du corps. Elle aussi va et vient, se donne et regrette. Ensuite lui kiffe, SMS, elle se pointe de suite. Ils vendent la CC, alors ils jouent les barons, le duc de la cité. Leur cœur bat de concert affective mendicité. Il s'appelle Roméo, elle s'appelle Juliette. Roméo et Juliette.
Il accélère, elle rabat un peu le dossier du siège et lui dit « Tu es belle ». Elle s'engouffre dans le piège, puis dévie, elle dit « En ce moment, je lis Malraux ». Elle a une fausse poitrine et les fantasmes d'une bimbo. Alors, fatalement, ce qui l'intéresse chez elle au départ, c'est pas son cerveau. Elle s'en rend bien compte et se mordit la lèvre. Comme quand gamine, elle joue au cerceau. Ce monde, il est horrible. Et mon gamin, il libérise tellement vite, mais on en est tous là. C'est juste l'amour qu'on cherche à vivre. Et si ça part en vrille, c'est que c'est sans modèle. T'es livré à toi-même. Et l'âpreté de la vie ne rend pas forcément meilleurs les caractères. On peut même être sous des apparences contraires, indifférent à l'autre quand la douleur est égocentrée, parce qu'en vérité, c'est sur nous-mêmes qu'on s'est prosterné. C'est juste une métaphore qui pourrait être biblique comme le veau d'or, parce que notre époque est d'accord dans le désaccord. On est déchiré par l'absence et le vide, en prise avec nos paradoxes, le besoin d'amour complique. Il s'appelle Roméo.
Elle s'appelle Juliette. Roméo et Juliette. Elle approche son visage, se rétracte, se demande si au fond, elle-même n'est pas une sorte d'offrande. Sacrifiée sur l'autel de toutes celles qu'on mal, qui souffrent, qui peinent tellement de ne pas avoir confiance en elle. Même si elle sait bien que son je t'aime est factice, elle se dit, aux yeux de quelqu'un au moins elle existe. Lui, il a la main gauche sur le volant, l'autre sur sa jambe à elle. La voiture file et leur cœur se fêle. Si elle était sa sœur et lui un mec quelconque, il retire sa main. À cette pensée passent les vitesses et fonce en prison. Souvent il se disait, quand je sors, je change. Mais dehors, son démon prenait toujours le pas sur son ange. Il tourna la tête à gauche et le camion déboula à droite.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Nous revoilà, donc c'est au tour de Guillaume pour quasiment une quatrième chronique un petit peu...
Mais pas du tout.
Oui, voilà.
Je t'ai encore coupé.
Oh. Bon, bah, je vais m'en aller. Hein.
Bien, non, c'est bon. On continue, vous inquiétez pas. Oui, donc, non, ce n'est pas du tout une chronique où je vais parler de sexe. Justement, c'était ma résolution, je vous l'avais dit la dernière quinzaine. Non, je ne veux plus en parler, ça fait quand même trois chroniques de suite. Mais bon, finalement, j'ai eu quand même quelques provocations.
Tu as eu des remords.
Non, pas des remords, des provocations qui m'obligent à vous en parler.
L'oblige, le couteau sous la gorge, pauvre Guillaume.
C'est ça. Alors, notamment déjà, alors un sujet quand même tout à fait étonnant, relevé aussi par Yann Barthès, mais pour avoir vu le journal de France 2 directement en direct, je sais pas ce qui leur est arrivé chez France 2, mais ils ont eu un petit moment d'égarement, puisque mardi dernier, ils ont diffusé dans le journal de 20h. Un reportage sur la station de ski très huppée de Cortina d'Ampezzo en Italie. Et on a l'occasion de découvrir donc cette station de ski dans laquelle des cartes postales sont remplacées dans les boutiques par des tableaux de maître et où un sauna à 2000 mètres d'altitude offre l'une des plus belles vues sur le monde. Jusque-là, tout va bien, rien d'anormal. Et le sujet bascule, puisque là, bon, alors, Yann Barthès dit c'est la drogue de France Télé, mais bon, on n'ira pas jusque-là. Mais là, on a deux utilisateurs du sauna, donc on avait vu dans une tenue tout à fait, enfin, avec un cadrage, on va dire, qui ne laissait rien paraître de choquant, et là, qui sortent nus dans la neige, se jeter dans la neige, donc, alors qu'il fait moins de 10 degrés, hein, annonce la voix off. Et forcément, en courant dans la neige, bah forcément, ils ne peuvent pas rester les mains.
Des choses bringue-balles, voudrais-tu dire ?
C'est exactement ça. Bon, alors, forcément, avec le froid relativement peu développé, mais quand même, hein, voilà. Bon, Anne-Marie, tu es d'accord.
Tu les as vus en direct, bah. Anne-Marie ?
Alors, je ne les ai pas vus en direct, je les ai vus effectivement sur Canal Plus, mais ils étaient quand même bien équipés, quoi.
Oui, voilà. Puis, bon, ils étaient très beaux gosses, hein, faut le reconnaître quand même.
Oui, enfin, je m'en souviens un peu, mais j'avais mal pour eux parce qu'en fait, ils sont tombés dans la neige qui n'était pas fraîche. Qui était bien dur, et ils ont dû avoir quand même bien, bien mal, je pense.
Oui, il y a peut-être eu des bleus mal placés.
Alors, faut mettre de la crème.
Deuxième.
Donc, c'est à revoir au Petit Journal ou sur le plus de France Télévisions, c'est ça.
Tout à fait. Donc après, autre provocation.
Je suis désolée, moi, mardi dernier, j'étais avec les pis des vaches.
C'était autre chose.
Bon, autre provocation, Adam recherche Ève, parce que tout à l'heure tu as commencé avec Ève et Adam, hein, mais donc c'est cette nouvelle télé-réalité que propose D8 hein, depuis avant-hier, et donc c'est un format hollandais, hein, une émission donc, de dating, comme on dit, donc un épisode de 52 minutes par semaine en prime time sur D8. Et donc, Adam Recherche Web fera intervenir au total 30 candidats de 25 à 35 ans qui se rencontreront totalement nus, voilà, sur une île paradisiaque du Pacifique. Chaque semaine, un Adam et une Ève feront connaissance seuls sur cette île, sans vêtements, mais ils ne resteront cependant pas seuls très longtemps, puisqu'un troisième candidat, femme ou homme, interviendra pour créer de la compétition entre les deux participants de même sexe.
Y a-t-il un pommier sur cette île, Guillaume ?
Non, c'est une île plutôt
paradisiaque. Oui, alors il va y avoir problème s'il n'y a pas de pommier quand même.
Alors, oui non, c'est sûr. Alors,
juste, Guillaume, dit, en fait, dans notre studio, on a une adolescente. Hein, ça, tu es adolescente ? Donc on pourrait peut-être la laisser parler. Est-ce que tu as regardé ou pas l'émission ?
Je ne l'ai pas encore regardé, j'ai vu le lancement.
Et ça t'a donné envie de regarder ou pas cette émission ?
Alors, il faut dire que je suis amatrice des téléréalités dans le sens où je viens le soir et que je regarde et ça me fait énormément rire par rapport aux bourdes qui sont dites grammaticalement. Et du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment tentée pour me détendre quand je rentrais du lycée.
Pour les bourdes ? Que pour les bourdes, là ?
Alors, pour les bourdes, oui, non pas autre chose.
Moi j'ai regardé alors, le tout début. Parce qu'ils
ils n'est pas adolescent, mais tu as regardé Guillaume.
Ils ont diffusé les 8 premières minutes du programme et j'ai parcouru ça rapidement. Alors, le truc, mais alors top du top, c'est donc le premier candidat qui explique qu'il est venu dans le programme pour que les rencontres ne se fassent pas sur les apparences.
Ah oui.
Alors là, j'ai envie de lui dire, c'est quand même mal barré. Bon, voilà.
Et alors, du coup, c'est flouté, non ?
Alors, bah, effectivement, c'est effectivement un des choix qu'a fait D8, c'est d'éviter donc le courroux du CSA, notamment pour un programme de prime time. Et donc, la chaîne de Canal+ a flouté les sexes des candidats, contrairement à ce que d'autres versions internationales de l'émission avaient fait.
Et contrairement à France 2, donc.
Oui, contrairement à France 2, évidemment. Donc, les spectateurs devront se contenter des fesses et des seins des participants. Ce que dit le Xavier Gandon, donc le directeur des flux et du divertissement de D8, c'est l'idée n'est pas de faire de la provocation. On n'a pas plus de nudité que dans l'épisode de Fais pas ci, fais pas ça chez les naturistes sur France 2. Bon, voilà, c'est pas tout à fait quand même le même objectif du programme. Alors, est-ce que vous allez pouvoir me poser la question ? Est-ce que ça a marché ? Voilà, merci. comme j'ai pas écrit les questions, c'est vrai que c'est plus compliqué.
Merci de tout.
Et bien, donc, ça a très bien marché. Puisqu'il y a 4,9% des parts d'audience sur cette émission, c'est D8 était en tête des chaînes de la TNT. Hein, du,
pas, ah, ça a marché ou quoi pour le premier épisode ?
Oui,
pour ce premier. Oui, donc c'est un peu normal aussi, c'est la nouveauté.
Oui, voilà, tout à fait. Et donc, c'est effectivement ce qui est dit, c'est que il faudra voir ce que donne le programme au second numéro. Par contre, il y a un programme qui a pâti de cette nouvelle télé-réalité, c'est la série Peplum, la série humoristique de M6. Qui peut être effectivement très critiqué.
Alors, je traduis, Anne-Marie lève les yeux au ciel.
Et souffle
mais
un peu.
Parce que c'était plein de promesses.
Un peu décevant, je suis assez
d'accord. Au bout de 45 minutes, j'ai lâché prise.
C'est vrai que c'est un peu lourdingue. Hein.
Mais voilà. C'est pas fait de façon intelligente.
Et donc, ils ont perdu 1 million de téléspectateurs qui sont sans doute allés voir un petit peu de personnes toutes nues sur
Eh ben non, mais c'était pas mon cas. Hein. C'était hier soir.
C'était avant-hier soir.
Avant-hier soir, d'accord.
Non, parce que
nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, on est jeudi.
Voilà.
Oui.
émission enregistrée.
Oui. Oui, c'est ça.
Elle passe le jeudi.
Oui, voilà. C'est ça. Enfin, c'était mardi soir, donc.
C'est ça.
Alors moi, je fais ma sérieuse le mardi soir. Je regarde Élise Lucet.
Ah bah oui,
c'est lente émission Cache Investigation.
Avec des révélations importantes.
Qui était fort intéressante, alors que le sujet ne m'intéressait pas à la base ce mardi. Après les téléphones portables et le monde des cigarettiers, là, les deux dernières qui avaient quand même été excellentes, je me suis laissé prendre au jeu et c'est quand même quelque chose. Quoi.
Alors... Troisième provocation dans cet ensemble, c'est l'actualité que tous les journaux ont traité. Alors peut-être pas Midi Libre, j'ai pas vu de tweet de Midi Libre hier, mais par contre Le Figaro, Le Monde, tout le monde a fait un petit article sur cette enquête sur la taille des pénis.
Voilà. Ah oui, j'ai vu ça sur Internet, effectivement.
Et voilà, tout le monde, mais vraiment tous les journaux, France Info, enfin bon, voilà. Donc c'était le sujet de cette journée de mardi aussi.
Il veut nous faire croire qu'il ne nous parle pas de sexe.
Non, mais il a eu des remords. Il avait des regrets. Donc...
Bon, mais voilà, j'arrête sur ces trois sujets. J'avais pris la résolution de ne pas trop vous en parler.
Enfin, ah oui, non, mais on veut savoir cette enquête, là. Tu nous laisses...
C'est quoi la taille ?
Je n'ose pas dire l'eau à la bouche, mais bon...
Alors, je n'ai pas l'article sous les yeux, mais de mémoire, il s'agit de 9 cm au repos, 9 et quelques, et 13 en érection. Donc, beaucoup moins que tout ce que les gens peuvent vanter sur Internet, notamment.
Notamment.
Voilà.
Ne vous précipitez pas aux toilettes, votre règle à la main, ça attendra ce soir.
Non, mais je pense qu'ils l'ont déjà plus fait. Déjà,
je pense aussi, mais.
Voilà. Donc,
tu avais quelque chose à nous dire, Guillaume, c'est
Non, moi je n'ai rien à dire sur ce sujet.
Je suis ravie parce que j'avais vu sur Internet, mais je n'avais pas eu le temps d'aller lire. Donc ce petit résumé me réjouit.
Voilà. Ce que j'avais prévu de vous faire ce soir, c'était de vous parler d'autres sujets.
Ce soir ou ce midi, quoi.
Oui,
voilà. Oui.
C'est vrai, c'est le problème de l'enregistrement, la faille de spatio temporel, tout ça. Bon, donc, ce que j'avais prévu donc, de vous parler, c'était de vous faire cette petite revue de presse. Et donc, vous évoquez une actu qui était assez sympa sur la Corée du Nord et la transmission d'œuvres culturelles aux Coréens du Nord. Donc je vais vous raconter l'histoire, ce sera plus simple. Parce que,
oui, parce sinon, que là, ça démarre mal, Guillaume.
Ça démarre mal.
Et donc, on n'a pas pris d'apéro.
Non.
Faire le souvenir.
Donc, des activistes nord-coréens transmettent illégalement donc, des clés USB contenant des films et des séries interdits sur le territoire pour libérer donc, le pays du régime dictatorial de Kim Jong-un. Alors, le leader de ce mouvement révolutionnaire, dans les colonnes d'un magazine américain, explique les raisons qui l'ont poussé à former ce collectif, NKSC. En important des objets de loisirs, cet homme de 46 ans souhaite créer une révolution culturelle. Le principe de son mouvement est simple. Des milliers de clés USB contenant des films, des livres ou des séries sont transmises à des douaniers corrompus. Ils sont en effet rémunérés pour effectuer ces services, cigarettes, alcool ou billets. Tout est bon pour convaincre donc ces passeurs de revendre ces clés sur le marché noir à prix d'or. Et d'après les chiffres du mouvement, 3 000 clés USB seraient transmises chaque année. Et alors, le film, le fameux film polémique The Interview, a réussi à passer la frontière avec Lucie de Luc Besson, Le Dictateur de Charlie Chaplin, Hunger Games, ou encore, d'autres. Je me suis perdu la liste. Et ou encore la fameuse série Friends, Desperate Housewives, voilà, d'autres objets culturels comme des livres, des articles Wikipédia, des émissions de radio ou encore des morceaux de musique sont aussi envoyés. Voilà.
Moi, il faudrait qu'on fasse passer...
Actuel et lui.
Actuel et lui, ben oui.
Voilà, on va leur faire une clé USB.
Ils apprendraient plein de choses. Spéciale dédicace à nos amis nord-coréens.
Oui, surtout sur, sur la chose.
C'est ça. C'est une de nos spécialités.
Enfin, de tes spécialités, Guillaume. Voilà, parce que bon...
Oui, alors Anne-Marie, je peux ressortir. Hein. Je l'ai déjà fait la semaine dernière. Tu ne donnes pas ta langue au chat là-dessus non plus.
Moi, je parlais littérature. Hein.
Oui, bien sûr.
Le cinéma, non ?
C'était littérature.
Littérature. Bien, donc, je voulais vous parler aussi de la polémique sur les enfoirés. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a donc une polémique...
Il est dur d'y échapper.
Oui, c'est ça, c'était un peu dur d'y échapper. La polémique autour de Toute la vie, hein, le dernier titre de la troupe des Restos du Cœur, qui était plutôt passé inaperçu jusqu'à sa sortie, depuis sa sortie début janvier. Mais la sortie du clip en début de semaine dernière a déclenché une vague de critiques. C'est un nouvel hymne écrit par Jean-Jacques Goldman et la troupe des Enfoirés se lance dans un dialogue avec une chorale de jeunes mettant l'accent sur une différence de génération. Celle-ci illustrée dans le clip où les Enfoirés sont, et les jeunes sont face à face. Et depuis donc, la publication de la vidéo, les commentaires se sont multipliés, accusant les Enfoirés de proposer un titre anti-jeune. Vous aviez tout, paix, liberté, plein emploi, nous c'est chômage, violence et sida, chante ainsi la chorale de jeunes, quand la troupe leur répond de se bouger. Alors de nombreux anonymes et des personnalités publiques ont ainsi dénoncé ce texte. Alors il y a aussi des membres de la troupe des Enfoirés qui ont soutenu Jean-Jacques Goldman. Alors,
comme l'âme, hein, qui a fait un gros coup de gueule.
Un gros coup de gueule. Et que voilà, ça fait le lien avec le début de cette chronique. Je commence à en avoir vraiment ras les couilles. Voilà. Je vous rappelle que l'âme est une chanteuse. voilà. Nous avons Maxime Le Forestier aussi qui a défendu Jean-Jacques Goldman. Et puis, ce mardi matin, c'était Jamel Debbouze sur Europe 1 qui a également défendu les Enfoirés en disant « Qu'est-ce qu'on vient faire chier les Restos du Cœur ?» Voilà un autre sujet que je voulais aborder. Et enfin, le dernier, c'est un article sur le site internet du Monde dans la rubrique « Les décodeurs ». Un site assez intéressant, toujours avec beaucoup de prise de recul sur l'actualité. Et bah, finalement, c'est un article de Mathilde Damger qui évoque 10 classements dans lesquels la France arrive en tête. Et dans ces temps où finalement on est toujours un peu dans le French bashing ou dans un peu de pessimisme, bah ça peut pas faire de mal de se dire un petit peu, d'avoir un peu la positive attitude. Ce sera ce qu'on écoutera tout à l'heure. Un petit hommage à Laurie.
Ouh là là.
Ah oui, non, mais aujourd'hui,
Ludo va adorer.
Voilà, et donc la France est la première destination touristique. Hein. Il y a eu dans le monde en 2014 plus de 1,1 milliard de touristes internationaux. Et parmi eux, 84,7 millions se sont rendus en France, ce qui permet au pays de rester la première destination touristique mondiale. La vigne est productive et la France a retrouvé en 2014 son titre de premier producteur de vin. Elle l'avait cédé en 2012 à l'Italie, qui rétrograde cette fois-ci en deuxième marche du podium. Et c'est l'Espagne qui complète ce trio de tête, donc le vin est européen. La stratégie du luxe, c'est également un point d'excellence pour la France, avec les maisons de luxe françaises qui paradent au premier rang du marché mondial des produits de luxe. Selon l'étude 2013 du cabinet de conseil Bain & Company, les marques tricolores monopoliseraient un quart du chiffre d'affaires du secteur au niveau mondial. Donc et sur les 270 marques de prestige, considérées comme ça dans le monde, 130 sont françaises. Alors, on retrouve également des semences tricolores sur toute la planète. Peut-être que tu as rencontré des semenciers dans les
halles. Bah oui, forcément.
De la du Salon de l'agriculture. Voilà, je vais retrouver mes mots. Donc, la France reste classée donc, au premier rang des exportateurs mondiaux de semences agricoles de grande culture, maïs en tête, selon les chiffres du groupement corporatiste mondial Internal Seed Federation. Voilà, voilà. Les footballeurs s'exportent bien aussi. Hein. C'est, voilà, c'est important. Hein. Si vous avez un footballeur à vendre, ça peut vous pouvez le vendre à l'étranger. Voilà. 113 joueurs ayant grandi dans l'Hexagone évoluent cette saison dans les 4 plus grands championnats européens, Italie, Angleterre, Espagne et Allemagne.
Et faut-il rappeler que cette semaine, nous avons appris que Franck Ribéry souhaitait devenir peut-être allemand.
Oui, oui, tout à fait. Des voiliers aussi qui sillonnent les mers, hein, puisque la France est au premier rang mondial pour l'exportation de voiliers. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est un peu spécifique, je l'entends, mais c'est quand même un message positif. Des services administratifs en ligne performants. Alors là, ça, on pouvait peut-être s'en étonner. Vos têtes interrogatives. Selon une étude de l'Organisation des Nations Unies, la France a une raison d'être fière de son développement numérique puisqu'elle prend la tête d'un classement européen basé sur 3 critères, les infrastructures de télécommunication, le niveau d'éducation des habitants et les services en ligne proposés par l'administration. Et ce classement arrive très en avance, notamment grâce au site servicepublic.fr qui permet de faire beaucoup de démarches en ligne. Voilà. On note aussi que la France est en tête aussi dans le nucléaire, hein, même si Areva a des résultats un peu difficiles ces temps-ci sur un plan économique. La France reste un des pays les plus nucléarisés au monde.
Faut-il s'en réjouir ?
Bah, oui, mais voilà. Enfin, en tous les cas, c'est une expertise, on va dire, française, initiée par le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. Et avec aujourd'hui une part de à peu près 73% de l'énergie électrique produite par le nucléaire et qui doit redescendre à 50% d'ici 2025. C'est un engagement du président de la République. Et pour terminer, avant-dernier classement, bah, c'est celui des grands écrivains. Et tu nous en avais parlé, Anne-Marie, avec le prix Nobel de littérature. Hein, non, c'est pas toi. Ah bah, ça devait être Aurélie, alors, je pense. Parce que c'est pas toi, Caroline. Hein, non, enfin, on en a parlé.
Voilà, vraiment. Je crois que je vais quitter la table.
Non, mais c'est pas ça que je voulais dire.
Tu es habillé pour l'hiver prochain.
Ah ben là, c'est bon, là, je crois. Il peut faire froid.
Donc tous les sujets intello, c'est pas pour toi, Caroline.
C'est pas ça du tout que je voulais dire. Mais il me semblait pas que Caroline ait fait de chronique littérature depuis qu'elle nous ait rejoint autour de cette table. Mais bon, excusez-moi.
Non, il y a Julien Clerc qui a sorti un livre, non ?
Oui, Marc aussi. Lavoine.
Marc Lavoine.
Non, mais Julien Clerc aussi.
Marc Lavoine.
Eh ben.
Julien Clerc aussi.
Oui, mais Caroline n'avait pas rencontré Marc Lavoine alors que tu avais rencontré Julien Clerc.
Oui, alors.
J'ai une idée pour
oui,
bon, future okay. chronique.
Oui, je note.
Donc, après Patrick Modiano, la France a empoché son 15e prix Nobel de littérature. Avec Patrick Modiano, c'est le 15e prix Nobel de littérature.
Et c'est pas toi qui nous a fait une chronique sur les prix Nobel. Ah, c'est fabuleux. Je ne sais pas ce qu'il a ce jeudi midi, mais à mon avis, il a un peu fumé la moquette. C'est ça ? C'est
maintenant
ça.
Que vous le dites,
oui,
ça me rappelle
dis, ça te revient.
Ah, ça te marque, hein ?
Oui, je savais bien qu'on en avait parlé. Vous voyez bien.
Quand ça ne parle pas de sexe,
voilà, il oublie.
Il n'enregistre pas.
Bon, donc Patrick Modiano, 15e prix Nobel de littérature de l'histoire. Le tout premier prix avait été attribué à un Français, c'était Sully Prudhomme en 1901. Et la France est le pays qui affiche le plus grand nombre de lauréats hein, sur 111 prix décernés depuis 1901, donc 15. Voilà. Et puis on termine avec le meilleur système de santé. Alors, bon, certes, le rapport date de l'an 2000, mais le constat de l'Organisation mondiale de la santé est sans appel. La France dispose du meilleur service de soins de la planète, ou du moins des 191 pays membres de l'organisation. L'analyse conclut que la France fournit les meilleurs soins de santé généraux, suivis notamment de l'Italie, de l'Espagne, d'Oman, de l'Autriche et du Japon. Voilà, dans les anciens rapports, la France était troisième, mais seul le niveau de santé général de la population... Essentiellement, leur durée de vie était prise en compte et dans l'approche adoptée par l'OMS en 2000, des critères plus qualitatifs ont été ajoutés comme le fonctionnement du système de santé et la satisfaction des malades. et la part financée directement par les populations et la répartition équitable des soins. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sans doute sur ce système de santé, mais
pour autant... Surtout jusqu'à quand il pourra être ainsi.
Voilà. Mais c'est sûr qu'il nous permet de bien vivre.
Ah, je suis un peu déçue dans ce top 10 quand même. Il n'y a pas d'histoire de pénis français, ni d'amourette, ni d'infidélité française. Je suis un peu déçue, Guillaume, quand même. Hein. Enfin bon, tant pis.
Mais voilà, bon, c'était cette petite revue de presse que je voulais vous faire aujourd'hui. Désolé pour le manque de préparation, mais j'espère que ça ne s'est pas trop entendu.
Non, pas de souci.
Alors comme je vous l'ai promis...
La chanson de Laurie.
Voilà, la positive attitude.
On reste dans la qualité. Hein.
C'est ça, dans la qualité. Tout dans la qualité aujourd'hui.
Soit-elle ou bien toi, les uns et les autres, ou même moi, nous avons tous pleuré au moins une fois, pour un coup dur de la vie, une jalousie.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et on se retrouve pour cette troisième partie d'Actuel et lui. C'est donc maintenant la partie de Caro.
Qui ne va pas nous parler de littérature.
Et non, vous l'avez compris, ce n'est pas mon domaine.
Et non, c'est vous qui avez parlé des prix Nobel. Voilà, on a trouvé la chronique.
Alors donc, je rentre de Paris une nouvelle fois cette année et j'ai eu envie à nouveau de vous faire partager mon expérience et de vous parler de ma semaine au Salon de l'Agriculture. Alors bien sûr...
Que tu nous as déjà quand même pas mal partagé tous les jours de la semaine.
Alors
dans
j'ai
des
essayé,
petits,
effectivement.
Petits articles.
Tout à fait.
Voilà, qu'on a pu suivre quand même.
Oui, oui, pour les fidèles lecteurs.
Petits
et grands d'ailleurs. Oui.
Une page par jour.
Oui, quand même. Hein. Alors bien sûr, les sujets sont nombreux, très nombreux même, et une émission n'y suffirait pas. Alors j'ai décidé de m'arrêter sur le profil de certains visiteurs, ceux qui n'ont pas mangé pendant 10 jours avant de franchir les grilles du parc des expositions de la porte de Versailles, les affamés, ou plus communément appelés les picassiettes. Et je peux vous dire que sur quasiment 700 000 visiteurs, eh ben, ils sont nombreux, les picassiettes. Alors on vient au salon, on paye son entrée, 13 euros cette année. Et alors là, c'est parti, il faut en avoir pour son argent et pour ses 13 euros.
Oui, en plus 13 euros, je trouve que c'est pas très cher. Enfin, moi je connaissais pas les tarifs.
C'est pas très cher.
Mais parce que tu restes toute la journée, c'est ça ?
Oui, oui, oui.
Donc, oui, vaut mieux parce que vu...
Oui, oui, il y a en plus largement de quoi faire pour la journée. Mais
franchement, c'est quand même un prix très attractif, je trouve.
Oui, tout à fait. Et d'autant qu'en plus, pour m'être plongée un matin parce que j'avais un problème d'accréditation dans cette foule qui attendait de rentrer, beaucoup ont des invitations, donc en plus ne payent pas. Mmh. Mais n'en sont pas moins affamés quand même. Hein. Alors donc, il y a ceux qui, pour rentabiliser ces 13 euros, vont s'en mettre plein les yeux. Alors, le meilleur endroit pour ça, c'est l'endroit des veaux, vaches, cochons, brebis, agneaux, poussins, chèvres et autres animaux de la ferme. Le hall 1 de ce salon de l'agriculture, il y en a 7 au total. Le 1, donc, c'est les animaux et c'est l'endroit où se précipitent les familles avec les enfants. Alors, il y en avait beaucoup cette année puisqu'on était en période de vacances des Parisiens. Alors, je dis ça et en même temps, ce salon de l'agriculture attire... donc 700 000 visiteurs, et il n'y a vraiment pas que des Parisiens, il y a un nombre impressionnant de provinciaux qui montent aussi à la capitale pour aller au Salon de l'Agriculture. C'est quelque chose, alors je ne sais pas la proportion, mais c'est quand même quelque chose qui est impressionnant.
Et il faut dire que ces animaux, ils sont magnifiques quand même.
Oui, alors on a les champions de chaque race, donc c'est vrai qu'on découvre, et puis un nombre de races impressionnant, donc on découvre là des choses qu'on ne voit pas dans son propre champ. Nous, les Lozériens qui sommes habitués, hein, on connaît les Aubraques, un petit peu les Salers d'à côté, quelques vaches, mais là, il y a quand même un panel qui est vachement sympa. J'ai fait un petit quiz dans la semaine sur les cochons.
On a bien reconnu ton... hein, voilà. On dit de moi, mais... Hein.
Oui, parce que c'était marqué quiz cochon et pas quiz sur le cochon. Je me suis dit quand même, ils y vont fort. Qui était dur d'ailleurs.
Qui était dur, oui, je suis bien d'accord. Et j'avais dû être très vigilante dans ma prise de photos et ma prise de notes pour ne pas me tromper moi-même en le faisant. Alors, coup de bol, ce grand hall 1 est aussi celui... Alors, ne me demandez pas ce qu'ils font dans l'étable, je ne saurais pas répondre, mais c'est celui aussi où l'on trouve les énormes stands de marques comme Lidl, qui a fait son entrée au salon cette année, une entrée très remarquée et très polémique, et de McDo, par exemple.
Oui, mais c'est aussi... comment ça s'appelle, la marque de porc aussi de...
Oui, alors il y a
tous les grands industriels.
Il y a tous les grands laitiers aussi, hein, qui distribuent à tout va.
Oui, tous les ans ils sont présents, mais je crois que cette année ils sont quand même plus forts au niveau de la com.
Oui, alors c'est vrai que cette année, alors cette entrée de Lidl sur le salon de l'agriculture a été très impressionnante. Alors déjà en arrivant en métro, la station de métro de la Porte de Versailles était aux couleurs de Lidl jusqu'aux contre-marches des escaliers. Je pense que ça leur a coûté un bras. Et toute la com dans le salon était aussi impressionnante. Alors donc un énorme stand dans ce hall 1, mais aussi des espèces de petites voiturettes dans les allées pour distribuer des sacs. J'y reviendrai plus tard, des sacs de course. Hein, alors aux couleurs de nos régions et pour lesquels les gens se serait presque battu.
Je crois que je vous en avais parlé, ou en tous les cas...
Est-ce que c'était bien avec nous ?
Oui, peut-être pas. C'est pour ça que j'y vais précautionneusement. Mais Lidl a une change complètement de stratégie commerciale.
Oui, tout à fait.
Et évolue donc du hard discount pur à plutôt une offre de supermarché classique. Avec beaucoup plus de produits frais,
voilà,
etc.
Voilà, et souhaiter notamment mettre en avant, là, ces conventions avec de nouveaux producteurs français, locaux, presque paysans. Bon, laissez-moi quand même sourire un petit peu.
On est d'accord.
Alors, la com jusqu'à envahir la salle de presse tout le mardi, du petit déjeuner à 8h jusqu'à la coupe de champagne à 19h, en passant par le brunch de midi, le goûter... avec des petites fraises de Dordogne, enfin un truc de ouf, vraiment, quoi. Alors, le thème annuel du salon était une agriculture en mouvement, c'est la deuxième année que ce thème est décliné. Il s'intéressait cette année particulièrement au mieux manger, à la préservation de l'environnement et à l'innovation. Alors, voilà, je vous laisse faire le lien de suite avec McDo et Lidl. Vous le voyez pas, moi pas trop non plus, enfin voilà, hein, comme dirait ma fille, lol. Ceci dit, alors, les visiteurs, eux, ne font pas la fine bouche et se précipitent, s'il le faut, sur les frites de McDo distribuées à longueur de journée dans des petits cornets ou donc sur ces sacs Lidl où presque on se bat. Alors, ma fille qui est à côté, c'était la jeune ado de tout à l'heure, elle se marre parce que je me suis fait un défi, j'en ai ramené un par jour. Mais ça m'a permis d'expérimenter la chose et de voir combien il fallait se battre pour ces sacs. Et combien j'ai pu poireauter si je suivais les instructions de l'hôtesse qui disait « il faut faire la queue là ben, ». Si tu te mettais là, tu n'avais jamais ton sac. Enfin bon, voilà, c'est une des petites anecdotes. Et alors donc, je reviens...
Donc, Caroline, hein, 8 sacs Lidl...
Que 5. J'étais raisonnable.
J'espérais avoir la de terrain. Hein,
voilà, j'espérais avoir le Languedoc-Roussillon et je ne l'ai pas trouvé. D'accord. Je lance un appel, je suis prête à faire des échanges.
C'était les régions, c'est ça ?
Oui, c'était alors, décliné par région. Alors je crois que j'ai la Basse-Normandie, la Corse,
de toute façon,
le Limousin. Le Limousin, Anne-Marie, je crois.
Comme elle fusionne, de toute façon, oui, il suffit d'en avoir moins.
Mais justement, c'est pour avoir un souvenir, tu vois, Guillaume, pour les nostalgiques.
Alors, je reviens donc aux frites de McDo. Oui.
Qui étaient bonnes ou pas? Alors, tu les as mangées?
Moi, je ne les ai pas goûtées. En tout cas, les visiteurs s'y précipitent. Et alors, ces affamés dont je parlais tout à l'heure ne font pas la différence avec le bœuf fermier d'Aubrac, la Belle Rouge, qui est en dégustation, une journée de promotion. C'est quand même assez pathétique. Voilà. Alors, ces picassiettes, donc, sont prêts à remplir le sac publicitaire Lidl ou autre, hein, parce qu'il y en a d'autres quand même, pour lequel ils auront presque tué père et mère dans l'allée centrale du salon, ou de remplir leur estomac, ça dépend. Le challenge, bien sûr, pour les meilleures picassiettes, étant bien évidemment de remplir leur sac publicitaire et leur estomac sur la journée. Alors, ma collègue Lola Cross, qui est journaliste pour Centre Presse Aveyron, a fait un petit article sur la sociologie des picassiettes. Et je vais la citer parce que j'ai trouvé qu'elle était excellente. Sur la stratégie mise en place par les groupes, un coup de coude, un clin d'œil, un bras tiré énergiquement, un discret pchit et quelques messes basses, à chacun son astuce pour prévenir le reste de la famille d'une dégustation imminente. Les yeux rivés sur la bouffe, ils avancent machinalement, scindent la foule jusqu'à l'objectif ultime, là s'organise une remarquable chaîne humaine. Le plus petit, souvent envoyé au front, j'y reviendrai tout à l'heure, se charge de faire passer les provisions aux autres. 1, 2, 3, puis 10 cure-dents circulent de main en main. Pas le temps de déguster, le stand voisin appelle. Déguster, un bien grand mot bien évidemment, des petits producteurs authentiques à McDo, aucune distinction n'est faite aux grandes dames des amoureux du terroir. Voilà. Alors, j'y reviens, c'est drôle comment dans cette organisation, on emploie facilement la méthode des enfants d'abord. Alors, les plus petits devant, qui ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive, mais qui, de leurs yeux, implorent un petit bout à déguster, un ballon à gonfler ou un horrible masque de vache à ramener à la maison, avec derrière les encouragements de toute la famille. « Allez, vas-y, Théo, demande à la dame !» encourage les parents impatients, bien sûr, de tenir ce trophée tant attendu. Voilà, alors dans cette petite sociologie décrite par ma collègue, il y a quand même quelques anecdotes sympathiques, comme cette dame qui est arrivée mardi sur le stand de l'Aveyron avec son tupperware, ou cet autre visiteur qui, le jour du bœuf fermier d'Aubrac, n'a pas hésité à déguster une brochette crue pour aller plus vite et pour doubler tout le monde. Voilà, c'est à ce point-là.
Des malades. En tout cas, je note qu'il ne faut pas avoir la gastro. Hein, parce que si le gamin il rapporte aux parents et aux grands-parents les mets...
Alors Bruno Rascalou, qui est au fourneau donc, toute la semaine du stand Aveyron, où on prend bien soin de ne faire les dégustations que de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h pour éviter le temps du repas, où certains, à l'époque, venaient quasiment faire... leur déjeuner. Donc Bruno Rascalou, le chef du stand, dit « Sur 50 personnes, 3 seulement savent ce qu'elles goûtent et s'en souviendront. Ils viennent bouffer, c'est tout. » Et le formateur, lui, de la Chambre des métiers aveyronnais, c'est donc le formateur aussi de la Chambre des métiers aveyronnais, c'est lui qui nous a confié cette anecdote de cette vue dépouillée de brochettes crues en disant « Jean, mais attendez, je vais les cuire !» Voilà, et cet autre visiteur qui se retourne vers nous en nous disant « Oh là là, que ce bœuf est bon !» alors que ça fait 2 heures qu'on lui parle de l'agneau d'Aveyron. Alors, je sente sur l'Aveyron parce que c'est des produits qu'on connaît, parce que j'y ai aussi passé beaucoup de temps, mais c'est quasiment ça partout. Et au stand des régions où les producteurs sont présents et vendent leurs produits, c'est pareil, on leur arracherait un bras pour déguster... Un petit carré de gruyère, de l'aïeul ou une petite tranche de saucisson. Quoi. C'est vraiment impressionnant. Alors, je ne vous parle pas des dom-toms, parce que là...
toujours très présents.
Voilà, les dom-toms sont très présents, très prisés. Et alors là, ce n'est pas dégustation gratuite, hein, puisque le rhum et ses dérivés sont même assez chers. Mais c'est quand même la ruée, et je peux vous dire que je me pose la question de savoir comment à 19h, les organisateurs arrivent à vider les allées des dom-toms, parce que c'est, une fois de plus, très impressionnant.
Sachant que ce qui est assez impressionnant, c'est de voir les gens avec aussi les sculptures en fleurs, et tous les fruits aussi...
Ah oui, au dom-tom, c'est vraiment très chouette, quoi. Vraiment. Ça, ouais, 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 ouais. Vraiment. Et alors après, on retrouve les gens dans le métro, dans Paris, on sait d'où ils viennent, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, si avec quelques 700 000 visiteurs, je le disais au début, le phénomène prend au Salon de l'Agriculture des proportions que moi j'ai trouvées inquiétantes, vous donnant parfois dans les allées des envies de meurtre difficilement contrôlables, hein, je le reconnais, que plusieurs fois je me suis dit « mais elle va pousser ses fesses, la vieille là devant, ou il va s'écarter l'espèce de gros lourdeau là ». Ne jouez quand même pas les étonnés, parce que je suis sûre que vous avez déjà constaté l'équivalent au buffet des vœux du maire, par exemple. C'est gratuit, oui. Profitons-en.
Mais là, généralement, il n'y a pas d'enfants, c'est plutôt des personnes âgées qui se collent à la table.
Oui, mais c'est un peu le même phénomène.
Et le problème, c'est que comme toi, tu es plus jeune que ces personnes âgées, tu n'oses pas les déplacer.
Oui, parce que tu es bien élevée, toi, Anne-Marie.
Oui, mais je ne suis pas la seule.
Oui, c'est ça.
Et que face à des personnes âgées, tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément.
C'est ça. Donc, c'est gratuit, profitons-en. Ou on a payé nos 13 euros, rentabilisons-les, quitte à s'en faire exploser la panse et à être malade. Voilà, c'était cette petite chronique du Salon de l'Agriculture que je voulais partager avec vous.
Moi, j'y étais l'année dernière, où j'avais fait un petit reportage sur 48FM, mais j'y étais aussi allé à l'invitation de la Commission européenne pour témoigner sur un projet. Et pareil, le stand de la Commission européenne fait aussi à manger et a aussi une foule quand il y a la dégustation. Alors par contre, quand vous présentez des projets financiers avec les fonds européens pour le développement rural et agricole, je peux vous assurer que vous avez beaucoup moins de monde.
Enfin, alors, comme vous avez certainement pu le voir, notre Premier ministre en a largement profité, lui aussi.
Oui, et tous les politiques aussi.
Et hein, tous les politiques.
Mais pas tant que ça, apparemment.
Bah, ils ont...
Selon le petit journal, justement, parce que bon, c'est vrai qu'ils s'arrêtaient boire à plusieurs temps. Et finalement, ils ont fait aussi le même cheminement que donc, Manuel Valls, avec les mêmes quantités bu, et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils buvaient vraiment pas grand-chose.
Alors, c'est très impressionnant, ces politiques, on peut faire un petit arrêt là-dessus.
Je pense que Chirac, lui, vraiment, il en profitait, parce qu'il tenait le coup, mais que là, tout ce qui passe...
Mais
là,
même pour avoir vu Chirac, parce que moi, je me suis trouvée trois fois à le suivre dans ses derniers salons... Il démarrait la bière, il la finissait jamais quand même. Hein.
Oui,
il y avait toujours un homme de main
bien
à côté pour récupérer le verre discrètement. Enfin, ils savent vachement faire ça. Quoi,
et sinon,
hein.
Tu étais bourré au bout d'une demi-heure.
Bien sûr. Je me suis retrouvée là cette année presque par hasard sur le stand des JA. C'était la journée Languedoc-Roussillon et Alain Juppé est passé et ils ont voulu lui faire déguster. Alors il y avait un producteur du Gard qui avait un jus de grenade, un produit un peu nouveau. Donc il l'a bu très gentiment, il en a repris un deuxième verre en plaisantant sur la prostate, tout ça. Et alors il y avait le producteur de l'autre qui disait « ouais, mais moi j'ai de la blanquette ». Alors il a dit « ouais, mais là ça va faire beaucoup », mais il a quand même bu son fond de verre pour participer. Et entre les deux, il s'est mangé une petite tranche de saucisson, l'Auxerrien. Enfin, mais voilà, ils savent quand même gérer le truc, hein. Ils ont une habitude forte de ça.
Et alors, tu ne nous as pas trop parlé de nos Lozériens. Ils ont été quand même... Il y a eu quand même des belles choses.
Alors, il y a eu des belles choses, bien évidemment. Alors,
après, ce n'était pas la thématique.
Oui,
voilà,
ce n'était
pas la thématique, bien sûr.
Pour en dire deux mots.
Côté animaux, donc, un taureau lozérien qui s'est bien comporté côté Aubrac. Un taureau limousin qui a fini quatrième pour sa première participation.
Les meilleurs.
Très remarqué. Hein, voilà, très, très remarqué. Alors, un jeune agriculteur de Servières, Sébastien Brun, la passion de l'élevage, la passion de cette génétique, et franchement, ça valait le coup de le suivre au salon. Après, côté produits laitiers, bien évidemment, comme chaque année, des médailles d'or et des médailles d'argent à retrouver chez vos producteurs dans le département et dans toutes les bonnes crèmeries. Et puis sur le stand de la Lozère, une série de producteurs et de vendeurs artisanaux vraiment, d'une part, super sympas, et puis avec des produits quand même de très grande qualité. Et pour être resté plusieurs fois avec eux et avoir vu un peu la réaction des gens, la Lozère est identifiée avec ses produits comme un département authentique. C'est pas qu'une image. Les gens, c'est vraiment... Ils savent que c'est un des endroits de France où les choses se font de manière encore traditionnelle, raisonnable et très, très peu industrialisée. C'est vrai que ça fait plaisir dans les allées d'entendre ce genre de commentaires.
Bien, alors qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter ?
Alors,
le jeudi a été une journée de très très forte affluence. C'était, mais j'avais jamais vu ça. On pouvait pas bouger dans les allées. C'était infernal. Et j'ai vraiment eu un moment où je n'en pouvais plus et où j'ai failli crier à ces gens. Mais venez donc à la campagne voir ces animaux plutôt que de tous vous retrouver là, porte de Versailles. Donc je vous propose Kent. Allons à la campagne.
C'est le week-end, fini la semaine, allons à la campagne pour nous refaire une santé, rien tel que la campagne. Franchement la glacière, le pack de bière et un bon pain de campagne. Les pâtes au gaz, les chapeaux de paille et battons la campagne. Allons à la campagne et oublions Paris. Cherchons à la campagne le vrai sens de la vie. On a trouvé un joli pré près de la nationale, juste à côté des voies ferrées, mais loin de la centrale. Dans un petit bois, après manger, on part faire une balade. Et quand bien même on est tapé, je te fais le coup de la panne. Allons à la campagne et oublions Paris. Cherchons à la campagne le vrai sens de la vie. Dès qu'on pourra, quand notre plan est parmi, sera fini, on se paiera une maison de campagne. Oh, je sais.
T'as peur de t'ennuyer tout seul à la campagne. Sans tes copines, c'est l'aubagne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi?
Tant pis pour la campagne, mais allons à la campagne. Paris, cherchons à la campagne le vrai sens de la vie. C'est le week-end, fini la semaine, allons à la campagne.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et c'est la fin de ce numéro d'Actuel et lui.
Oh, c'est passé très vite.
Et trop. Oui, très vite. Mais oui. Je crois que cette fois-ci, nous allons être pas mal aussi dans le timing. Un petit
on a commencé en retard, Anne-Marie. On devrait être pas mal.
Ouais, si. Je pense qu'on est pas mal du tout. Il faut rajouter les chansons. Enfin, voilà, c'est le montage, hein, c'est tout ça. Enfin, bon, voilà, c'est le problème de l'enregistrement.
Ah oui, c'est vrai qu'il manque les chansons. Oui. Oula!
Enfin, pas pour les auditeurs
qui viennent de tout entendre.
Hein. Nos belles chansons, surtout celle de Laurie, n'est-ce pas?
Oui. Bon, on vous propose donc de réécouter cette émission, évidemment, le mardi à 18h11, le jeudi à 12h30 et sur 48fm.org.
À bientôt. N'hésitez pas à podcaster.
À bientôt. Bonne quinzaine.
Bonne quinzaine.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.